Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
Maximilienne Ngombe, vous êtes camerounaise, vous êtes avec nous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous en prie.
Alors, vous êtes directrice du RADAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, et vous êtes donc à Washington parce que vous avez reçu le prix des droits humains de l'organisation Robert Kennedy Human Rights, qui plaide pour les droits humains aux USA et dans le reste du monde, et qui est présidée par Kerry Kennedy. Et vous êtes, on le rappelle, une des lauréates 2021 du prix Femmes de Courage du département d'État américain, avec la Congolaise, notamment Julienne Lusenge. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Dans un premier temps, votre réaction par rapport à ce prix.
Merci de m'avoir donné cette opportunité. Le sentiment pour le prix qu'il m'a été donné par la Fondation Kennedy est un sentiment de joie, mais aussi de peine. De joie parce que, comme je l'ai dit lors de mon allocution, mes enfants que j'ai mis à l'abri depuis 2013, je pense que le sacrifice qu'ils ont consenti, n'est-ce pas, aujourd'hui où je suis deux fois, n'est-ce pas, lauréate dans un pays comme les États-Unis, je pense qu'ils sont fiers de ce travail et moi je suis aussi fière et c'est une joie immense. Un peu de la peine parce que ça démontre que nous avons beaucoup de responsabilités. Une lourde responsabilité multiple pour faire à ce qu'au niveau de la sous-région que je dirige, au niveau de l'Afrique centrale, avec tout ce que cela comporte aujourd'hui comme violation systématique et systémique des droits humains, la restriction de l'espace civique, c'est une lourde responsabilité. Ça me donne de la peine parce que je ne suis pas sûre que j'ai les épaules larges pour y arriver. Mais c'est avec beaucoup de respect et beaucoup, n'est-ce pas, d'humilité que j'accepte ce prix. Et c'est l'occasion ici de dire un grand merci à Kerry Kennedy qui m'a appelé personnellement pour me dire « Vous êtes lauréate ». Je n'ai pas été à l'époque en contact avec elle. Je n'ai jamais travaillé avec la Fondation Robert Kennedy. Je n'ai jamais appliqué pour avoir un prix. Donc pour moi, c'est une reconnaissance supplémentaire et je voudrais saluer toute l'équipe de cette immense et cette prestigieuse organisation. Et je vous dis aussi merci de nous avoir accordé, n'est-ce pas, cet espace.
Alors, Maximilienne Ngombe, vous voulez commencer par le Cameroun, votre pays, ou faire un survol plutôt des pays que vous couvrez, RDC, Tchad, Gabon, République du Congo? On commence par quoi?
Je pense que tous les pays sont pratiquement pareils, mais comme je suis quand même camerounaise, à tout seigneur, tout honneur, le Cameroun va être parti, n'est-ce pas?
On ne peut pas échapper à la question, le problème donc de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, avec le conflit séparatiste. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a quand même l'impression que ça s'empire.
Oui, ça s'empire parce qu'il y a une autre forme de... C'est plus une confrontation très armée comme on voyait avant. Là, ça a muté par d'autres formes de lutte. C'est-à-dire, par exemple, on va voir les kidnappings aujourd'hui des officiels. Ça fait au moins un an qu'on a kidnappé 6 délégués. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils en sont. On venait de kidnapper une sénatrice, une femme âgée, qui d'ailleurs est membre du parti au pouvoir. Et on a vu qu'elle a été, n'est-ce pas, libérée. On ne sait pas trop comment, mais elle a été libérée. Donc ça prend d'autres formes, une autre forme de crise qui est plus inquiétante parce qu'elle est larvée. on ne sait pas trop quand est-ce qu'une bombe va exploser, quand est-ce qu'on va kidnapper, quand est-ce qu'on va attaquer des institutions. Elle est plus inquiétante parce que bientôt, on va avoir, n'est-ce pas, l'école qui va commencer. Donc, effectivement, ça nous inquiète. Et beaucoup de déplacés internes. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont dans les prisons et donc pratiquement 200 qui n'ont jamais vu le juge, un juge d'instruction. C'est beaucoup pour une région ou pour deux régions, 500 personnes pratiquement en prison. C'est
alors beaucoup. Justement, est-ce que ces personnes ont accès à la justice?
Certains ont accès à la justice, mais comme vous le savez vous-même aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour tous. La justice camerounaise subit, n'est-ce pas, les mêmes défis que, n'est-ce pas, tous les secteurs. Elle n'est pas indépendante à 100%, même s'il y a des juges et des magistrats qui essaient de faire leur travail. Parce qu'il faut quand même rendre hommage à ces juges et magistrats qui essaient de faire leur travail dans un contexte où il n'y a pas d'indépendance formelle de la justice. Mais d'autres n'ont pas accès à la justice. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a des lenteur administratif, mais il y a aussi tout ce que je venais de vous dire, l'indépendance de la justice, tout le monde attend les ordres qui viennent, soit du ministre, soit de la présidence, et donc ça bloque énormément, n'est-ce pas, l'accès à la justice. Il y a aussi les conditions, n'est-ce pas, de détention. Tout le monde sait que les prisons au Cameroun sont vétustes. Elles datent des années coloniales. Donc, des prisons qui étaient conçues pour moins de personnes aujourd'hui sont bondées de monde. Et ça donne, n'est-ce pas, la précarité pour tous ceux qui sont. C'est pour cela que nous avons toujours pris l'avantage par rapport même à la COVID avec la sortie de Mme Bachelet des Nations Unies qui demandait de désengorger des prisons. Nous avons pris l'avantage de demander au président de la République de suivre cette déclaration. Ça a été fait, mais ça n'a pas été comme on le voulait.
Une nouvelle prison qui a été créée récemment, non?
Oui, il y a une nouvelle prison qui a été créée, c'est à Douala, c'est très loin. Pour le moment, personne ne sait quels sont les prisonniers qui y sont, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle. Mais ça ne peut pas régler le problème, n'est-ce pas, des conditions de détention, parce qu'elle ne peut pas prendre tous les prisonniers, mais les conditions aussi, telles que les gardes de prison, les gardes prisonniers aussi ne sont pas nombreux. Les effectifs, n'est-ce pas, ne sont pas nombreux. Donc, les infirmeries, n'est-ce pas, l'accompagnement même judiciaire, donc tout ça, ça fait que l'accès à la prison est difficile. Mais une chose, c'est même l'utilisation de la loi antiterroriste. Parce qu'on ne sait pas trop, dans ces conditions-là, pourquoi on arrête peut-être ceux qui sont en train de protester pacifiquement et on les charge par rapport à la loi antiterroriste des militaires.
Ngombe, on va donc en arriver à parler donc des islamistes armés dans l'extrême nord de votre pays, ceux-là qu'on appelle Boko Haram. On est là-bas vraiment très loin, enclavé entre plusieurs pays. On est entre Diffa au Niger, Maïdougouri au Nigeria et Maroua. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas en fait. On a très peu de nouvelles sur l'actualité. Comment vivent les gens là-bas? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense que effectivement la crise au nord-ouest, sud-ouest est venue un peu mettre en sourdine ce qui se passe à l'extrême nord. Mais les velléités aussi de Boko Haram ont repris, n'est-ce pas, belle lurette. Nous avons des relais locaux, nous avons organisé des dialogues intercommunautaires à Maroua et un peu dans toutes ces régions-là. Il faut dire la réalité, c'est que les jeunes filles et les femmes paient le lot de tribus et des peuples autochtones comme les Bororo. Donc on les tue, on les kidnappe, on prend leur bétail. Les jeunes filles sont abusées sexuellement et vous savez que quand il y a une guerre, elles servent même des épouses, n'est-ce pas, de ces terroristes. Le gouvernement fait les efforts et même les partenaire au développement, mais comme c'est un vaste, comme vous le dites, une vaste région, ce n'est pas assez, parce que ce qu'il faut mettre en place, n'est-ce pas, c'est des réelles politiques communautaires pour que les communautés prennent à même leurs propres problèmes. Et ça, tant que c'est fait au niveau macro, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui vient, n'est-ce pas, avec les partenaires au développement, vient implémenter tous ces projets-là, on voit bien qu'il y a un véritable problème. Et il y a aussi un autre problème, un phénomène, c'est que les lamidos, les chefs lamidos, qui pour certains sont devenus des bourreaux des populations, c'est inquiétant parce que voilà les populations qui sont entre l'enclume et le marteau, Boko Haram qui sévit, et ceux qui ont la possibilité de les protéger, les livrent.
Écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique.
Alors, le repli identitaire, c'est une question de la distribution de richesses. De plus en plus, il y a des entités qui pensent que les richesses ne sont pas distribuées correctement, équitablement. Donc chacun se replie pour dire il faut que nous sauvons notre communauté. Et ça, c'est un grand problème au Cameroun si rien n'est fait rapidement. Parce que vous savez très bien que quand chaque peuple, chaque communauté se replie sur elle-même, sur lui-même, il s'isole, mais en même temps, il est prêt à utiliser la violence pour se faire entendre. Et c'est ça que nous voulons éviter, c'est ce que nous avons voulu éviter en mettant en place, n'est-ce pas, ce vaste programme de dialogue intercommunautaire pour mettre les gens ensemble, pour discuter ensemble, pour trouver des solutions ensemble, pour dire que nous sommes dans un pays ensemble et que ce que vivent des gens, des personnes au nord-ouest, c'est probablement pas la même chose, mais c'est à peu près ce que vivent toutes les personnes dans les 10 régions, parce qu'il y a une question de mal-gouvernance, de la mauvaise répartition des richesses, et nous devons travailler ensemble pour que ça nous soit distribué équitablement.
Maximilienne Ngombe, vous voulez dire un mot sur les défenseurs des droits humains, en particulier les femmes,
ouais,
dans votre pays?
Oui, les défenseurs des droits humains payent le lourd tribut aujourd'hui dans cette restriction de l'espace civique entouré de toutes ces crises-là au nord-ouest, sud-ouest, à l'extrême nord, à l'est, et même aujourd'hui au niveau de la crise post-électorale qui n'est pas encore résolue complètement, parce que vous savez qu'au moins 100 membres du parti politique d'opposition, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sont aujourd'hui en prison. Certains ont écopé de 7 ans d'emprisonnement ferme parce qu'ils ont voulu quand même seulement pacifiquement protester le 20 septembre 2020, et nous pensons que ça contribue à fermer l'espace civique. Alors c'est dans cet environnement que travaillent les défenseurs des droits humains. Alors ce qui se passe, c'est que les défenseurs, ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que d'abord demander à l'État de respecter ses engagements.
Est-ce que ça marche?
Souvent ça marche, mais c'est notre rôle de faire pression, d'utiliser tous les moyens, de protester, c'est le rôle.
On écoute.
On écoute souvent, mais il y a des moments où on n'écoute pas. Donc je voulais dire simplement que c'est notre rôle. Que ce soit dit une fois pour toutes que notre rôle, c'est d'engager le gouvernement à respecter ses engagements onusiens, africains et même la Constitution. Donc tant qu'il ne le fait pas, tant qu'on a le sentiment que ce n'est pas fait, nous allons continuer. Souvent, certains des autorités voient cela comme si c'était une forme de déstabilisation, comme ils appellent ça très souvent, et nous subissons beaucoup, beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidations, même d'humiliation, de lynchage médiatique de par certaines autorités. Et là, c'est les femmes défenseurs qui paient le lourd tribut, parce que vous savez, en tant que femme, d'abord, on est vulnérable. Parce, entre guillemets, même si on est fort, et tout le monde le sait, mais comme nous sommes dans un pays patriarcat où la femme est d'abord un sous-homme, et lorsqu'elle porte encore une voix... elle est considérée... Merci beaucoup de m'avoir ramené, oui. Elle est considérée comme un sous-homme, malgré que ce n'est pas vrai. Et lorsque, en plus de cela, elle porte une voix, vous pouvez imaginer ce qu'elle endure de tous les côtés. Il y a des moments où même des personnes pour lesquelles vous vous battez, à un moment donné, deviennent sont contre vous. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes avec le gouvernement en leur disant respectez juste les conventions instruments. Après, et vous dites par exemple au groupe armé, vraiment vous devez déposer les armes pour qu'on aille vers une solution ensemble. Vous avez des menaces de toutes parts. Les femmes défenseurs, certains ont divorcé parce que leur mari ne peuvent pas comprendre que en tant que femme, vous êtes en train de vous battre sur quelque chose alors que vous avez un foyer à gérer, il y a des enfants. D'autres ont perdu même l'estime d'elles-mêmes. Et c'est les femmes qui n'arrivent pas à aller en exil parce qu'elles ont une famille, elles préfèrent, n'est-ce pas, endurer toutes ces menaces-là au niveau local parce que les hommes ont cette mobilité de pouvoir partir. Donc la situation des femmes défenseurs est très, très inquiétante. D'ailleurs, nous avons fait une étude sur les femmes défenseurs sur le nord-ouest et sud-ouest en relation avec mon frère et mon ami lauréate Mbala qui dirige le Tchada. On a bien vu que les femmes défenseurs ont beaucoup de problèmes et c'est pour cela ici que je saisis cette opportunité de dire au gouvernement camerounais et à d'autres gouvernements d'adopter les lois qui protègent, n'est-ce pas, les défenseurs. Il y en a un projet de loi qui est aujourd'hui au bureau du Sénat, déposé par un sénateur qui a bien voulu nous accompagner, le sénateur Flamboyant. Il faut prendre cette opportunité et je demande aussi, et j'encourage aussi le gouvernement américain et d'autres gouvernements de demander, n'est-ce pas, à l'État du Cameroun d'adopter cette loi qui viendra, n'est-ce pas, légalement protéger les défenseurs qui ne font que leur travail conformément à la Constitution, conformément aux traités internationaux et régionaux.
Ne manquez pas de vous rendre sur notre site internet voaafrique.com, notamment dans les rubriques Femmes et Genre et LMF, dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages parmi bien d'autres choses. Merci beaucoup de rester fidèles. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VOA Afrique.
Alors, Maximilienne Ngombe, vous voulez parler aussi d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation?
Oui. Quand on a brossé tout ce que vous avez entendu au niveau du Cameroun, il y a un autre phénomène, c'est le tribalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se regarde en chien de faïence dans ce repli identitaire. Et c'est bien instrumentalisé et bien entretenu par le gouvernement. Et à côté de cela, il y a une vaste corruption, il y a la pauvreté ambiante et il y a les frustrations. Il y a les propos haineux sur les réseaux sociaux. Il y a une absence, n'est-ce pas, aujourd'hui, de la cohésion sociale. Parce que, comme on le dit, même si on se précipite à aller aujourd'hui faire des élections en 2025, si on ne s'est pas réconcilié entre nous-mêmes, on n'est pas sûr que ces élections seront paisibles. C'est pour cela que pour nous, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est l'issue, c'est le seul instrument qui va nous faire sortir de là. Comment elle va se faire? Pour nous, il y a la justice transitionnelle. Quand vous parlez de la réconciliation, vous pouvez aussi dire je reconnais mes fautes, je dis la vérité et donc on peut vous excuser. C'est ça qu'on appelle la justice transitionnelle. Il y a l'histoire. Il faut quand même que les gens sachent pourquoi on en est arrivé là. On ne peut pas dire comme ça que oui, il y a des problèmes, on échange. Voilà. Il y a aussi la réconciliation, mais il y a la réparation. Il y a quand même que les gens doivent rendre compte et il faut réparer. Et puis il y a des institutions. Il faut mettre en place toutes ces institutions là pour que la transition démocratique soit une transition réussie qui va faire à ce que tout le monde, n'est-ce pas, se sente bien. Donc, ça veut dire cesser le feu, tout ce que cela comporte. C'est pour cela que nous pensons que c'est l'unique voie de succès pour le Cameroun.
Alors, Maximilienne Ngombe, très rapidement, on termine un survol des pays que vous couvrez, RDC, Tchad, Gabon,
ouais.
République du Congo.
Ouais.
Et vous avez justement observé plusieurs élections. Aujourd'hui, quel constat vous faites en Afrique centrale hein?
Ouais, l'Afrique centrale reste difficile, même si on a quand même engagé certains résultats. Vous le savez très bien, le Gabon a quand même pris une loi pour dépénaliser l'homosexualité. C'est en Afrique centrale et c'est notre boulot. Et je veux dire que il faut reconnaître quand quelque chose se passe correctement. Là, l'Afrique, la Centrafrique vient d'abolir la peine de mort. Ça c'est un résultat quand même concret. Et la Centrafrique aussi a signé quand même un accord de cesser le feu à Khartoum, où on était là. Et puis, ils sont petit à petit en train de mettre en place la commission Vérité, Justice, Conciliation et en même temps la Cour spéciale pour juger, n'est-ce pas, les criminels au niveau de la Centrafrique. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et même s'il y a au niveau des élections, on est un peu inquiet parce que vous savez très bien qu'aux dernières élections, il y a eu des problèmes avec, n'est-ce pas, l'ex-président qui était Bozizé. Mais ça se calme et nous sommes un peu, nous suivons de très près. La RDC va tenir ses élections l'année prochaine. On est un peu inquiet. On est un peu inquiet parce que la recrudescence de la violence au niveau du sud-est et nord-est de Nord Kivu et Sud Kivu est inquiétant. Et en même temps, la question, n'est-ce pas, de l'indépendance de la Commission nationale, la Commission nationale pour l'organisation de la CENI, ça se pose avec acuité, mais avec nous avons quand même eu beaucoup de réunions avec la Commission nationale des droits de l'homme, avec des parlementaires. Nous pensons que on va continuer à monitorer, on va avoir la documentation avant les élections et la documentation pendant et après. Et comme d'habitude, il ne nous reste qu'à faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les recommandations qui ne sont pas coercitives. Le Tchad, vous savez, après, depuis la mort de Idriss Déby, il y a quand même la junte qui a pris le pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, c'est un jeune militaire, c'est anticonstitutionnel. Donc notre problème, aujourd'hui, notre bataille, c'est de revenir à la constitution. Et nous avons dit qu'il faut respecter dans tous ces pays, à la CADEC, la charte africaine, la démocratie, les élections, la gouvernance. C'est la moindre des choses, c'est eux, les États partis qui ont, n'est-ce pas, adopté cette charte. Il est pas normal qu'en Afrique centrale, et ils sont toujours les premiers à aller, n'est-ce pas, ratifier, qu'ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, de la mise en œuvre. Le Gabon aussi va avoir les élections. Vous savez très bien la situation du président. Il n'est pas très en santé, on ne sait pas trop, personne ne communique. Donc ça, c'est les pays qui nous rendent un peu frustré parce que ou bien un peu frileux parce que nous devons faire attention à ce que les élections soient quand même apaisées.
Maximilienne Ngombe, je rappelle que vous êtes camerounaise, hein, que vous êtes militante des droits humains et que vous avez en effet beaucoup à faire, hein, comme vous venez de nous le rappeler. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous êtes juriste et directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. À très bientôt.
Merci beaucoup. Et si vous faites un tour en Afrique centrale, n'hésitez pas de venir nous raconter.
Ah, ce serait avec grand plaisir. Voilà. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.